France Info.
Bonsoir, bienvenue dans Les Informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Donc on vient de l'apprendre, hein, l'homme est plus vieux de 100 000 ans, c'est incroyable. Et dire qu'à l'époque, il n'y avait même pas encore Les Informés de France Info ou Les Informés de Monsieur Grumpf, c'était peut-être ça un petit peu les Informés de l'époque, en tout cas de cet homo sapiens. En tout cas, eux, ils sont venus par leurs propres moyens et ils descendent aussi de cet homme finalement qui aujourd'hui est plus âgé. Et ce soir, Les Informés de France Info reçoivent l'avocate Caroline Mécari, bonsoir.
Bonsoir.
Également Pierre Persson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat à Paris pour La République En Marche. Audrey Goutard, bonsoir.
Bonsoir.
De la rédaction de France Télévisions. Et Éric Métou, bonsoir.
Bonsoir.
De L'Express. Et ce soir, nous parlerons de pollution étatique d'Emmanuel Macron. Prochaine couve au Quai Podium. Loi Travail, le fameux plan secret. Mais pour l'instant, dans Les Informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Alors, comme un terrible leg de l'histoire, Emmanuel Macron, depuis son premier jour, parle de sécurité et de contre-terrorisme. Alors que la Grande-Bretagne est particulièrement frappée, que l'attaque hier d'un policier sur le parvis de Notre-Dame de Paris n'a heureusement pas fait de victimes, le Conseil de défense a validé aujourd'hui la création d'une task force anti-Daesh. Alors, un conseil qui a apparemment intégré dans ses rangs un linguiste et un orthophoniste, parce que ce mot task force, c'était particulièrement délicat à prononcer. Donc, oubliez task force et dites maintenant le Centre national de contre-terrorisme. C'est plus simple. Cette structure qui sera placée donc sous l'autorité directe du chef de l'État comptera une vingtaine de personnes, des représentants de différents services et analystes, et fonctionnera 24 heures sur 24. Une concentration des pouvoirs dans les mains d'un seul homme, le président, qui pourrait amener quelques problèmes, selon le directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement, Alain Rodier.
Là où il y a un problème, c'est-à-dire que ayant rattaché cette structure directement à la présidence de la République, en cas de coup dur, en cas de bavure, disons le mot, parce que dans le service de renseignement, cela peut arriver, comme ailleurs, eh bien le président se retrouve en première ligne. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le fusible nécessaire mais suffisant pour épargner justement le président.
Voilà, Alain Rodier, donc directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement. Audrey Goutard, c'est vrai que là, c'est beaucoup de pouvoir dans les mains d'un seul homme, quand même, chez Emmanuel Macron, non ?
De toute façon, à la base, le président de la République a un droit de regard et un regard, évidemment, sur la lutte antiterroriste.
On ne passe plus par le ministère de la Défense, maintenant, c'est directement
ministère de la Défense, ministère de l'Intérieur, mais c'est de toute façon déjà le cas. Je vous rappelle que vous avez à l'Élysée, de toute façon, une unité de coordination qui existe et qui se réunit toutes les semaines avec tous les patrons du terrorisme et qui joue ce rôle de, justement, de courroie de transmission. Vous avez aussi des patrons, les patrons des grands services antiterroristes ont été nommés, de toute façon, par les plus hautes autorités et, évidemment, avec l'aval de l'Élysée. Donc, rien de neuf de tout. C'est un très joli coup de com', pour être objectif, avec, effectivement, rajoutant au-dessus de tous les services qui existent déjà et qui fonctionnent franchement plutôt pas mal, parce qu'il y a une coordination, elle existe, cette coordination, il y a plusieurs services de coordination. Donc, au-dessus, on rajoute, effectivement, cette nouvelle task force, ouais, qui ajoutera un peu de fluidité, mais qui aura son rôle à jouer, quand même. Si je peux continuer.
Allez-y, mon
dada.
Bien sûr, je sais que c'est votre domaine.
Qui aura son rôle à jouer, parce que la lutte antiterroriste, c'est aussi très politique. Et il faut être puissant politiquement, il faut avoir une voix forte pour pouvoir faire passer, par exemple, auprès de Google ou auprès de WhatsApp, la nécessité de récupérer les données de cryptage. Par exemple, toutes ces grosses entreprises actuelles ne refusent de donner leurs données de cryptage et permettent ainsi aux terroristes de continuer à communiquer sans que les services puissent intervenir dans leur communication. Ouais. Ça peut vouloir dire aussi, effectivement, lutter bien lutter contre les Français qui vont combattre à l'étranger et trouver des solutions. Pour l'instant, ça a été le grand échec de François Hollande, de ne pas savoir contenir ces Français qui partent là-bas.
Alors, Éric Métou, pour vous, ça c'est quoi ? L'Élysée dit c'est pour décloisonner les services. Certains disent ça en rajoute une couche, en fait, véritablement. Est-ce que c'est
quoi ? On ne sait pas pour l'instant. C'est uniquement de l'annonce. On a juste un patron et puis un organigramme un peu sommaire. Après, moi, j'ai toujours tendance à penser que le renseignement, ça doit se faire dans l'ombre, qu'on ne doit pas en entendre parler, que moins on entend parler, plus il est efficace. Et ça rajoute de la communication à la communication. On remet des gens en avant, on remet tout sur... bon, c'est aussi le jeu de Macron depuis qu'il est en campagne, mais depuis qu'il est élu. C'est-à-dire, tout passe par moi et vous allez voir, j'arrive et tout va s'arranger. Je vais serrer les mains un petit peu plus fort, je vais serrer les boulons encore plus fort et puis maintenant, je vais prendre l'antiterrorisme. Je suis pas certain que ça ait une efficacité quelconque. Enfin, agir sans nécessairement s'afficher comme ça et faire effectivement de la com, ça me paraît tout aussi utile, sinon plus.
Pierre Verson, quand vous entendez ça, justement, tout régler, tout passer par soi, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, on a l'impression, a tendance à tout faire passer par lui. Est-ce que là aussi, la lutte antiterrorisme, ça doit passer? Absolument. Bah
déjà, c'est une promesse de campagne. Oui. On l'avait dit, il l'a annoncé, il l'a fait. Voilà. Ensuite, c'est quoi? C'est surtout mettre, comment dirais-je, un poids plus important, un poids plus politique, donc à la lutte contre Daesh. Moi, j'ai travaillé dans le privé sur toutes les questions de sécurité intérieure. Je l'ai vu. Parfois, les systèmes entre eux, douane, DGSI, DGSE, ont du mal à communiquer. Et donc là, c'est pas mettre une strate supplémentaire, mais c'est bien essayer de décloisonner en fait la communication entre ces différents services et donc les mettre auprès du président.
Karim Mekari, vous, ce genre d'initiative, est-ce que vous trouvez ça risqué, comme le disait finalement tout à l'heure notre expert en disant, il y avait un fusible avant qui était le ministre de la Défense. Aujourd'hui, c'est le président directement à qui on...
Écoutez, moi j'ai, enfin, ma première réaction face à l'annonce de la création de cette task force.
Alors on va dire centre national de contre-terrorisme.
Voilà,
aussi, on
peut c'est dire. Ça, exactement. Je me suis dit, tiens, voilà un coup de com. Le président se croit dans la série 24 heures chrono. Et voilà, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'apparaît comme étant de l'ordre de l'affichage, avec par ailleurs, je suis d'accord avec l'intervenant que nous avons entendu tout à l'heure, effectivement, il y a une espèce de personnalisation de la lutte antiterroriste qui ne me paraît pas très intelligente. L'antiterrorisme, c'est en effet quelque chose qui doit se faire principalement dans l'ombre, et puis surtout, ça ne passe évidemment pas que par ces moyens-là, c'est-à-dire que ça passe aussi par l'éducation, ça passe aussi par tout ce qui est culturel, et que donc, pour moi, on est dans du Macron, quoi, ouais. Voilà.
D'accord, très bien, tout simplement. On va continuer à en parler dans un instant, et on parlera également aussi de la loi anti-terroriste qui devrait arriver bientôt au Conseil des ministres, le 21 juin précisément. L'info à 20h10, c'est Stéphane Milhomme.
James Comey confirme que Donald Trump lui a demandé d'abandonner l'enquête sur Flynn. L'ancien patron du FBI livre un témoignage écrit au Congrès américain ce soir. Il précise que le chef de la Maison-Blanche voulait sa loyauté. Limogé par le président américain le mois dernier, James Comey a promis de faire des révélations. La police britannique arrête un nouveau suspect dans l'attentat de Manchester. Un homme de 20 ans interpellé par la police la nuit dernière. Après cet attentat suicide à Manchester Arena, 8 suspects sont en détention provisoire. Cette attaque avait fait 22 morts. 3 Français sont morts dans l'attentat de Londres. Le troisième identifié aujourd'hui, c'est Xavier Thomas, âgé de 45 ans. Le Français était porté disparu depuis samedi. La famille d'un autre Français qui n'a pas donné signe de vie depuis l'attaque s'inquiète et prévient désormais le Quai d'Orsay. La place éternelle est l'exemple du général de Gaulle. C'est par ces mots que le Premier ministre s'est recueilli aujourd'hui devant la tombe à Colombey, les deux églises, quelques jours après sa dégradation par un ivrogne. À 4 jours du premier tour des législatives, Édouard Philippe a rendu visite ensuite aux militaires voisins de Saint-Dizier. Et puis le Belge Thomas de Gendt reste en jaune sur le critérium du Dauphiné. L'étape d'aujourd'hui a mené le peloton jusqu'à Bourgoin-Jallieu, remporté par un Australien, Richie Porte, à l'issue d'un contre-la-montre de 23 500
km. France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, ça y est, c'est donc acté par le Conseil de défense. Il y aura donc une task force, mais il ne faut pas le dire comme ça, il faut dire centre national de contre-terrorisme. C'est terrible parce qu'on ne dira jamais ce terme finalement, de task force, donc autour d'Emmanuel Macron pour lutter de manière plus efficace contre le terrorisme. Ce sont les mots du président de la République. Juste une chose, Audrey Goutard, quand on nous dit qu'elle marchera 24 heures sur 24, là on est un peu dans la com aussi parce qu'on imagine que les renseignements marchent 24 heures sur 24.
De toute façon, c'est de la com. C'est de la com plutôt habile d'ailleurs parce que c'est exactement ce qu'avait créé Obama par exemple en arrivant. Alors quand on raconte l'histoire de Macron et qu'on voit ce qu'il veut incarner, etc., c'est vrai qu'il est en train de créer exactement la copie conforme de ce qu'avait créé Obama à son arrivée, avec un service 24 heures sur 24. C'est vrai que les Américains avaient plus besoin que nous de gérer leur lutte antiterroriste. Ils avaient, entre les différentes fédérations, etc., c'était extrêmement compliqué, les États, alors qu'en France, ça marche plutôt pas mal. Alors donc, voilà où on peut parler effectivement de com.
Alors, dans la boîte à idées et sécurité d'Emmanuel Macron, il y a donc cette task force, mais également une nouvelle loi antiterrorisme. Et là, On s'apprête à passer dans une autre dimension puisqu'elle sera présentée en Conseil des ministres le 21 juin prochain. Et selon le journal Le Monde qui a pu consulter le projet de loi, toutes les mesures de l'état d'urgence pourraient se retrouver dans le droit commun. Alors je me tourne vers vous, forcément Caroline Mécari, vous êtes avocate. Quand vous entendez ça, justement, ces mesures qui se retrouvent dans le droit commun, en gros, on sort de l'état d'urgence mais ça devient la norme.
Ben écoutez, voilà, c'est la banalisation de l'état d'urgence, c'est-à-dire en fait la banalisation d'un état qui devrait être un état d'exception, avec des pouvoirs sans contrôle judiciaire exercés par l'administration. Donc on est tranquillement sur le chemin d'un gouvernement autocratique, pour ne pas dire plus. Sans compter évidemment que j'ajoute quand même sur cette histoire de task force, vous avez eu raison de rappeler ce qu'avait fait Obama, parce que ça nous permet aussi de montrer comment Emmanuel Macron met en scène les choses d'une manière à la fois dramatique et vaguement militaire pour lutter contre le terrorisme. Alors, donc on est vraiment dans du théâtre, ça ne me surprend pas.
Pierre Persson, justement, sur cette loi, donc ça a l'air quand même de mettre les mesures de l'état d'urgence dans le droit commun, on se dit que c'est assez sévère quand même.
Non, déjà, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul, parce qu'on l'a vu aussi avec la semaine dernière avec la loi travail, le texte qui a été communiqué.
On va en parler dans un instant, voilà, d'ailleurs.
Le texte qui a été communiqué n'était pas le bon, c'était un document de travail. Donc, je veux bien que les annonces qui ont été faites, voilà, préjugent du texte qui sortira, mais j'aimerais qu'on attende un peu le texte. Mmh. On l'avait vu aussi avec la loi travail, des Comrie. Il y avait eu des informations qui étaient lancées dans la presse, mais sans savoir si c'était véritablement le projet de loi initial. Donc,
vous savez que ça peut être aussi parfois des coups de com' pour tester la population.
Oui. Enfin, là, voilà, la prochaine majorité qui va donc s'installer à l'Assemblée nationale devra reconduire l'état d'urgence du 15 juillet au 1er novembre. Et donc on ne peut pas considérer qu'on va rester ad vitam aeternam dans la situation d'état d'urgence. Donc il faudra une loi, notamment une loi de transition pour certaines choses, notamment le suivi par exemple des assignés à résidence ou bien la fermeture de lieux de culte qui poseraient problème, pour pouvoir passer de l'état d'urgence à une situation qui rejoigne le droit commun.
Mais là vous n'avez pas l'impression que le judiciaire finalement est mis de côté, quoi. Aujourd'hui c'est vrai qu'avec cette nouvelle loi, si ça se passe comme ça, finalement, aujourd'hui, les préfets pour les assignations à résidence ne passeront plus du tout par le judiciaire.
Je pense que cette loi, elle passera par le Parlement. Mmh. Et donc, on respectera les principes constitutionnels que nous impose la Constitution.
Mmh. Éric Métou, une nouvelle loi antiterroriste. Aujourd'hui, on a la dernière loi date du mois de juin, il y a un an, pile, en fait, presque. Est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle loi encore aujourd'hui ?
On empile les lois, les textes, les contraintes pour des... Voilà des résultats dont on se demande un peu ce qu'ils sont. Enfin, l'état d'urgence, ça fait 2 ans maintenant, à peu près.
18 mois, et ça a épuisé totalement.
Et on sait depuis 15 mois que ça ne sert plus à grand chose. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
on ne peut pas dire ça. Eric.
Mais si, on peut dire ça, bien sûr. Il y a des résultats, il y a des chiffres. On sait combien de personnes ont été concernées par l'état d'urgence. On sait combien de personnes ont
eu lieu, les perquisitions.
Et ce que ça a donné derrière. Ce à quoi ça a aussi servi parallèlement à côté. Dans les manifestations, c'est pas ça la lutte antiterrorisme, c'est pas l'état d'urgence qui est perpétué pendant des mois et des mois et des mois. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui c'est un piège, c'est-à-dire que lever l'état d'urgence, c'est montrer un signe de faiblesse à quelques semaines des élections, enfin quelques jours des élections. Ça serait pas très malin, mais à un moment il va falloir en sortir. Et en sortir en faisant une loi qui reprend les mesures les plus dures de l'état d'urgence, je suis pas certain que ça soit la
solution. Audrey Goutard.
Non, je veux pas faire de macronisme, mais c'est pas le but. C'est que techniquement, si on parle avec ceux qui bossent vraiment, ceux qui ont les mains dans le cambouis, ce qui est évident, c'est que l'état d'urgence, eux, ils s'en fichent que ce soit l'état d'urgence, si vous voulez. Ce qui les intéresse, c'est de pouvoir avoir un levier pour pouvoir agir sur, on est dans une époque particulière, peut pouvoir agir sur des gens qui sont effectivement très bien infiltrés, très masqués, qui avancent dans une, enfin voilà, on voit bien ce qui s'est passé encore aujourd'hui à Notre-Dame, pardon, hier.
Et vous pensez que ce qui s'est passé à Notre-Dame hier, l'état d'urgence pouvait y changer quelque chose?
Je refuse le moindre dogmatisme en la matière.
Mais c'est pas du dogmatisme,
Si, parce que, pardon, pas de votre part, mais le fait est, c'est que, on peut pas dire l'état d'urgence c'est nul ou c'est très bien. C'est pas le propos. Ce qui est bien dans l'état d'urgence, si vous voulez, c'est certains points qui permettent d'agir de façon efficace. Par exemple, effectivement, on parlait des perquisitions administratives. Oui. On parlait de la fouille des coffres de voitures dans des zones bien déterminées. C'est très simple. Au jour d'aujourd'hui, si vous prenez par exemple la fouille des coffres de voitures, je veux pas rentrer trop dans la technique, mais voilà. Le fait est qu'il faut pour l'instant l'avis d'un proc. C'est-à-dire qu'il faut déterminer une zone, par exemple le stade où a lieu un match de foot. On détermine cette zone et à partir de là, on peut ouvrir les coffres dans cette zone sous l'autorisation du procureur. Eh bien, effectivement, dorénavant, si la loi passe, on pourra ouvrir n'importe quand un coffre de voiture. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire que c'est liberticide, mais c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, on est dans une époque où on est obligé, malheureusement, en tout cas pour un certain temps, de
rien ne prouve, rien ne prouve que ces mesures sont efficaces. Il n'y a pas un chiffre. Non, il n'y a pas un chiffre qui dit ça aujourd'hui. En particulier sur les personnalités qui ont été mises en résidence surveillée. Je veux dire, il y en a combien? Combien de ces personnes, ça a abouti à des mises en examen effectives et la révélation d'affaires effectives.
Alors, Pierre Persson, vous vouliez...
Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on est en train de débattre d'un projet de loi qu'on n'a pas vu.
Non, mais on parle d'urgence.
Oui, d'accord, mais on est en train de dire qu'aujourd'hui, l'état d'urgence va rentrer dans le droit commun. C'est pas le cas.
C'est pas parce que vous êtes candidat aux législatives que vous devez pas... Voilà, il faut être un peu objectif. Bon, ok, vous défendez votre paroisse, vous avez le droit, tout ça, tout va bien. Mais bon, les journalistes non plus ne sont pas des imbéciles, ils ont l'information, etc.
Pour l'instant, une partie des mesures ont été présentées
par le Premier ministre tout à l'heure.
Voilà, donc effectivement, on sait très bien que certains points de l'état d'urgence vont être pris dans la loi. Donc ça, c'est...
Bien sûr, mais ce texte fera l'objet de débats au Parlement.
Oui, oh bah c'est sûr, oui, bien sûr, de débats avec une majorité. Bon, voilà, on en reparlera tout à l'heure.
On va en parler dans un instant. Mais est-ce que le problème aussi, tout à l'heure, on en parlait, vous en parliez tout à l'heure de sortir de l'état d'urgence. On se souvient, il y a eu le 14 juillet, malheureusement, quand François Hollande annonce la fin de l'état d'urgence, il y a un attentat le soir.
Il y a une chose qui me gêne dans ce discours-là aussi, c'est que Emmanuel Macron était l'un des seuls à tenir sur le terrorisme et la radicalisation, un discours un petit peu plus nuancé que la quasi-totalité des autres hommes politiques, hommes et femmes politiques, en posant notamment la question, en disant, mais il faudrait quand même qu'on se demande pourquoi ces gamins qui ont 25-30 ans aujourd'hui, qui sont français, qui sont nés en France, qui ont bénéficié du bien-être français, n'ont qu'une envie, c'est d'aller se faire sauter dans une boîte de nuit avec et tirer dans une salle de concert. Et cette question-là, aujourd'hui, maintenant qu'il est élu, il se la pose plus. En tout cas, il ne se la pose pas depuis qu'il est arrivé à l'Élysée. Et ça me gêne.
Allez, dans un instant, on va parler de la loi travail. Oui, ça continue, cette loi travail, c'est incroyable. L'info à 20h20, c'est Stéphane Milhomme.
Le témoignage de James Comey au Congrès américain dans une déposition écrite, l'ancien patron du FBI confirme ce soir que Donald Trump lui a demandé d'abandonner l'enquête sur Flynn, son ancien conseiller mêlé à l'affaire de l'ingérence russe dans l'élection présidentielle. Le chef de la Maison Blanche voulait sa loyauté. La police iranienne annonce l'arrestation de 5 suspects après le double attentat de Téhéran. Le groupe État islamique a revendiqué les deux attaques qui ont fait ce matin au moins 12 morts et des dizaines de blessés. C'est dans la capitale iranienne. La France paie un lourd tribut dans l'attentat de Londres. C'est Emmanuel Macron qui l'annonçait depuis le perron de l'Élysée. Un troisième Français est mort dans l'attaque de samedi dernier. Il s'agit de Xavier Thomas, cet homme de 45 ans qui était porté disparu par sa famille. Les touristes de retour à Notre-Dame de Paris depuis ce matin avec des moyens de surveillance renforcés depuis l'attaque d'hier après-midi. Sur une vidéo saisie chez lui, l'assaillant de 40 ans prête allégeance à Daesh. Il annonce également son passage à l'acte. Paris, ce soir, Ariana Grande reprend sa tournée après l'attentat de Manchester. La chanteuse se produira sur la scène de Bercy sous haute protection policière. Et puis Andy Murray retrouve Stan Wawrinka en demi-finale de Roland Garros. Le numéro 1 mondial a battu le japonais Nishikori en 4-7. Wawrinka plus fort que le croate Marin Cilic en 3-7.
France Info.
20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir l'avocate Caroline Mécari, Pierre Persson, candidat à Paris pour La République En Marche, Audrey Goutard de la rédaction de France Télévisions et Éric Métou de L'Express. Alors magie de la communication, depuis hier on en sait un peu plus sur la future loi travail. Bon, sans vraiment en savoir plus, en fait, puisque le Premier ministre et la ministre du Travail en ont développé la philosophie, donner de l'oxygène au monde du travail, selon les termes d'exécutif, mais sans rentrer dans le détail. Alors, une feuille de route costaude, hein, puisque 48 réunions sont prévues, une discussion au Parlement au mois de juillet, et les premières ordonnances publiées avant la fin de l'été, aux premières couleurs de l'automne, ou aux premières feuilles mortes, ça dépend vraiment de l'opinion qu'on a de cette loi. Pour l'instant, les syndicats attendent de voir, mais restent prudents, comme le secrétaire de Force Ouvrière, Jean-Claude Mailly.
Quand je lis ce qui sort dans Libération ce matin, je dis halte au feu. C'est du all-inclusive pour le patronat. Écoutez, si la concertation, si ce sont des pistes et que ces pistes, ça reflète l'état d'esprit du gouvernement, ce qu'il veut faire, ça va être clair, la concertation, on va vite tourner à l'impasse. Ça n'est pas possible, on peut pas rentrer dans une logique qui serait une logique anglo-saxonne, alors que le Premier ministre dit hier il faut préserver le modèle social, ça, c'est complètement l'inverse.
Voilà, secrétaire de Force Ouvrière, Jean-Claude Mailly, ce matin sur Europe 1. Alors, Pierre Persson, c'est vrai qu'il y a une question qui se pose depuis hier, c'est que le projet d'habilitation de la réforme du Code de travail sera présenté au Conseil des ministres le 28 juin, au lendemain donc des législatives. Est-ce qu'il aurait été finalement, on va dire, plus simple, est-ce qu'il aurait fallu que le gouvernement présente avant les législatives, comme certains leaders politiques le demandent?
Non, je pense pas. De toute façon, on a été clair. On a dit ce qu'on allait faire et on va faire ce que l'on a dit. Et ça, c'est le principe. C'est-à-dire que ça a trop nuit au quinquennat Hollande de ne pas faire ce qui avait été annoncé avant. Et donc, sur la loi travail, on a dit qu'on allait libérer, simplifier, donner plus de flexibilité aux entreprises, mais aussi apporter de la sécurité aux salariés. Moi, sur le terrain, je le vois tous les jours. On est dans un droit du travail qui aujourd'hui sclérose, qui protège toujours les mêmes et qui ne donne pas accès à une minorité, à une majorité aujourd'hui de la population. Je crois que c'est 80% des jeunes qui sont embauchés en CDD. Mmh. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas satisfaire de l'état du droit du travail. Mmh. Donc, il y a besoin d'aller vite, d'être efficace et de réformer en profondeur, donc en libérant, mais toujours en protégeant aussi les salariés.
Caroline Mécaré.
Ah bah c'est formidable, donc j'apprends que 80% des jeunes sont en CDD, et alors comme 80% des jeunes sont en CDD, bah il faut que tout le monde soit en CDD. Au fond c'est ça le projet de loi travail.
C'est pas mon propos, c'est caricatural.
Mais c'est exactement ce que vous avez dit, non. Donc en réalité ce qui se dessine, ce qui va se dessiner, ça va être un laminage du droit du travail, très clairement. C'est vraiment, si on suit ce qui a été publié dans Libération, je crois que la classe moyenne française, elle a vraiment du souci à se faire, très très clairement. Et alors, quand j'entends dire que il faut flexibiliser, que le chômage est dû au code du travail, je trouve ça absolument insensé. Voilà, le code du travail, je le montre à tout le monde. Ouais. Demain, avec Monsieur Macron, ça sera exactement ça. Les entreprises pourront faire exactement ce qu'elles veulent. Et je rappelle quand même que le code du travail a pour fonction principale de protéger les plus faibles. C'est qui les plus faibles ? Ce sont les salariés, ce ne sont pas les employeurs. Et j'en parle en connaissance de cause, je suis moi-même employeur, donc je sais de quoi je parle, j'ai des salariés. Et donc, à partir du moment où on prétend vouloir flexibiliser, c'est-à-dire finalement avoir des salariés taillables et corvéables à merci, eh bien, je dis très clairement que c'est le laminage du code du travail. Et je dis très clairement que, au final, on se retrouvera avec une classe SPP+, et avec des pauvres précaires. Voilà. C'est ça ce qui nous pend au nez. Vous ne voulez pas l'entendre. Très bien. Nous en reparlerons dans six mois.
C'est pas que je veux pas l'entendre, c'est que je l'ai vécu. Je suis arrivé à Paris pas pour la beauté des monuments, hein, je vous rassure. Je suis arrivé à Paris parce que c'était là où je pouvais trouver du travail. Et encore, j'ai mis 6 mois à trouver du travail, alors que j'ai bac plus 5. Vous trouvez que c'est normal? Alors, vous allez me dire...
Et vous croyez qu'en modifiant les règles du licenciement, ça y est, le chômage n'en a plus.
C'est sûr, mais que si on reste dans le statu quo, franchement, vous rêvez. Si on reste dans le statu quo pendant 20 ans,
vous rêvez. Vous pensez vraiment que le chômage est dû au code du travail?
En tout cas, moi, je suis pas
dans
l'opposition.
C'est vraiment une inversion des choses.
Je pense qu'il y a des choses à changer. Là, vous me dites, Macron, c'est tout précaire. Bon, écoutez, je suis un peu surpris, parce que quand on généralise le chômage pour tout le monde, qu'on s'oppose à la dégressivité des allocations chômage, excusez-moi, j'ai pas l'impression que ce soit tout précaire.
Alors, attendez, Caroline, secondes. Alors, je voudrais juste savoir, Éric Métou, à votre avis, la question que je posais finalement tout à l'heure sur, il y a eu donc des fuites, donc, dans le Parisien, que le gouvernement a dénoncé, il y a, ce matin, dans Libération, est-ce que finalement le gouvernement n'aurait pas tendance à nous dire véritablement ce qu'il y a? Parce que vous avez donné des grandes lignes, mais le détail. On l'attend.
Bah oui, mais alors, comme il y a 48 réunions à venir, enfin, il y en a certains qui sont déjà passés, on n'aura pas le détail tant que les 48 réunions ne seront pas terminées, puisque c'est la concertation, le maître mot maintenant. Et heureusement, d'ailleurs, autant, moi, les ordonnances ne me dérangent pas, autant je trouve très bien que les syndicats soient dans la boucle. Après, les révélations à Libé et aux Parisiens, oui, ça ressemble quand même assez fort à des coups de sonde. Voilà, on va voir comment la réaction... l'opinion réagit. Après, il a été élu là-dessus, Macron. Enfin, je veux dire, c'est...
Ah non, il a été élu. Non, là, je suis pas d'accord avec vous.
Alors, attendez, allez-y,
il a été élu. Il a été élu. Il est arrivé premier au premier tour sur ces propositions-là. Il est normal que ce soit. Il l'a dit. Là-dessus, il a jamais été plus clair que sur ce sujet. Il a dit, j'arrive et c'est la première chose que je fais. Je change le droit du travail. Et les gens, il a fait près de 70%.
Oui, enfin, il a été élu contre Marine Le Pen.
Non, il a fait 25% au premier tour. C'est pas vrai. Ça, c'est trop facile.
Ah non, l'élection par défaut, c'est trop facile. Excusez-moi, là, je suis pas d'accord avec vous du tout.
Alors, ce qu'on va faire dans un instant, on va continuer à en parler de cette loi travail, voilà, puisque c'est même pas encore commencé les réunions qu'on en discute déjà. On parlera également des législatives et puis de cette Macron-mania. C'est vrai qu'on voit un petit peu partout, notamment il y a un hebdomadaire qui en parle beaucoup cette semaine. Voilà la suite du programme des informés de France Info dans quelques minutes.
Liberté.
Égalité.
Coopérer. En ce moment, c'est la semaine de la coopération agricole. Découvrez les coopératives agricoles dans toutes les régions françaises et participez aux animations. Rendez-vous sur notre site internet lacoopérationagricole.coop.
L'astroroscope illico. Astro Capricorne.
C'est moi.
Les astres sont unanimes. Vous êtes fait pour partir en voyage sous les tropiques.
Merci, mais je le savais déjà.
Et qui vous l'a dit?
C'est Astro Balance.
Avec Astro, cet été sera sous le signe de la chance. Alors quel que soit votre signe, ne perdez jamais une occasion de gagner illico. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
C'est au Havre et nulle part ailleurs que vous passerez votre été. À l'occasion du 500e anniversaire de la ville, plasticiens, designers, graphistes, metteurs en scène, romanciers, graffeurs viendront sur les traces de Niemeyer et de Monet réinterpréter cette cité étonnante. Du 27 mai au 8 octobre, avec plus de 60 artistes invités, l'art envahit la ville et le Havre n'a pas fini de vous surprendre. Œuvres monumentales, expositions, concerts, un été au Havre, c'est la grande redécouverte. Renseignements sur unétéauhavre2017.fr.
France Info Météo, avec les meubles Gauthier, experts français des petits espaces. Retrouvez toutes nos solutions gain de place en magasin et sur gauthier.fr.
Et à Météo France, on retrouve Sébastien Léas.
Dès demain matin, sur la majeure partie du pays, le soleil va briller sans partage, réchauffant rapidement l'atmosphère. Et l'après-midi restera très ensoleillé, avec des maximales qui feront un bond en avant, grimpant entre 25 et 33 degrés, avec 27 degrés pour Paris et 30 degrés pour Lyon. En revanche, sur le quart nord-ouest, ce sera plus mitigé. En marge d'une perturbation, le ciel sera bien voilé. Sur la Bretagne, les nuages seront déjà nombreux demain matin et des pluies sont même attendues localement demain après-midi. Et on gardera une certaine fraîcheur, les maximales variant seulement entre 19 et 22 degrés. La matinée restera quand même lumineuse des Hauts-de-France au Pays de la Loire, puis ce voile nuageux s'étendra demain après-midi du littoral aquitain à la Haute-Normandie et au Nord-Pas-de-Calais. Mais en soirée, des averses orageuses vont remonter en direction des Charentes et de la Touraine.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
L'info à 20h30, c'est Édouard Marguier, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Les États-Unis condamnent ce soir les attaques terroristes à Téhéran. Le groupe État islamique s'en est pris pour la première fois à la capitale iranienne. Deux attentats ce matin, un devant le Parlement, l'autre dans le mausolée de l'Ayatollah Khomeini. Au moins 13 personnes sont mortes, une quarantaine d'autres sont blessées. Le président iranien a appelé à la coopération internationale contre le terrorisme. Alexandre Pijard, 27 ans, Sébastien Bélanger, 36 ans et Xavier Thomas, 45 ans. Ces trois Français sont morts dans l'attentat de Londres samedi soir. 8 personnes tuées après la découverte du corps du troisième dans la Tamise. Cette attaque revendiquée par Daesh a fait aussi 48 blessés. Notre pays a payé un lourd tribut dans cet attentat, a déclaré le président Emmanuel Macron. Dans ce contexte, les autorités demandent à tout le monde d'être vigilant, si bien qu'un train a dû s'arrêter à Valence après une fausse alerte aujourd'hui. Panique provoquée par un comédien qui révisait son texte dans les toilettes. Le signalement a été pris très au sérieux, Mélanie Tournardre.
Une douzaine de gendarmes ont été mobilisés, notamment le psych de Romans, formé à intervenir en cas d'attentat, parce que l'alerte donnée par la SNCF est jugée sérieuse. En fait, vers 14h dans ce TGV Marseille-Paris, le contrôleur entend un homme enfermé dans les toilettes d'un wagon. Il parle très fort en anglais et en néerlandais, ça dure longtemps. Le contrôleur croit comprendre qu'il parle d'armes, il entend le mot « gun ». Après les récents attentats, le contrôleur prend peur. Le train fait alors un arrêt exceptionnel en gare de Valence-TGV pour interpeller ce voyageur. L'homme est entendu par les gendarmes de Bourg-de-Péage et là, ils comprennent que c'était une fausse alerte. Ce voyageur n'a aucune arme, c'est juste un comédien français de 35 ans. Ce Parisien répétait une pièce de théâtre pour une future audition. Il a évidemment été remis en liberté, mais il a quand même dû avoir bien peur et il a raté son train. Mélanie Tournadre, France Bleu Drôme Ardèche pour France Info.
L'Homo sapiens a pris 100 000 ans d'un coup. Il serait vieux de 300 000 ans et non pas de 200 000 comme on le pensait. Nouvelle étude parue ce soir dans la revue Nature qui change beaucoup sur la connaissance de nos origines. Résultat d'une découverte de fossiles au Maroc entre 2004 et 2016. Le carnet de commandes chez Airbus s'épaissit. Une compagnie aérienne low cost des Philippines a commandé 7 à 320, montant 812 millions de dollars. Le dernier carré de Roland-Garros, le numéro 1 mondial Andy Murray affrontera le Suisse Stan Wawrinka et l'autre demi-finale opposera l'Espagnol Rafael Nadal contre la surprise, l'Autrichien Dominic Thiem, tombeur du Serbe Novak Djokovic. 20h33 sur France Info, la suite des informés avec Jean-Mathieu Pernin.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT. Et au contact de l'actualité, ils se transforment en commentateurs, un peu comme les X-Men. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent l'avocate Caroline Mécari, Pierre Person, candidat à Paris pour La République En Marche, également Audrey Goutard de la rédaction de France Télévisions et Éric Métou de L'Express. Encore une petite question à propos de cette loi travail qui fait déjà beaucoup parler alors que les réunions n'ont même pas commencé. Mais les premières ordonnances devraient arriver avant la fin de l'été. Alors, juste pour vous préciser, la fin de l'été, pour nous, c'est généralement la fin du mois d'août. Là, en fait, ça serait plutôt au mois de septembre. C'est-à-dire vraiment 21 septembre, hein, vraiment les saisons classiques. Voilà, on reste sur du classique avec Emmanuel Macron. Audrey Goutard, quand on voit finalement ce qui est sorti, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a dit qu'il n'y avait pas de plan caché.
Pas de plan caché. De problème, que tout se ferait avec les syndicats, que effectivement tout ce qui était finalement dans l'IB et dans le Parisien était totalement bidon.
Ouais, est-ce que c'est une nouvelle fois, comme on en parlait tout à l'heure, sur l'état d'urgence, c'est aussi pour sonder, comme le disait Éric Métou, un petit peu, pour voir les réactions?
C'est ce que Éric Métou pense, pourquoi pas? C'est vrai que ça serait pas la première fois que ça se fait. Ouais, ouais. Évidemment que ça se fait. Et évidemment qu'ils ont quelque part raison d'essayer de sonder un peu. Vu le débat qu'on vient d'avoir, ouais, on voit bien que les 28 réunions seront violentes et tendues.
Ouais, alors, pas forcément, mais est-ce que, Pierre Person, vous a étonné quand même que les syndicats, là, enfin, se disent, voilà, il faut quand même nous dire véritablement ce qu'il peut y avoir avant même d'entamer quand même les négociations, parce que là, pour nous, tout ce qu'on lit, forcément, ça alimente.
Moi, j'ai confiance dans le dialogue social. Franchement, je suis pas pessimiste là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas de fatalité à ce qu'on s'entende pas dans ce pays, entre partenaires sociaux et exécutifs. Donc, j'ai confiance dans les négociations qui auront lieu. J'ai confiance en ce qu'elles aboutiront. C'est sûr qu'il y aura des points de clivage. Il y aura sûrement des points de désentente et de désaccord, mais...
Notamment sur les prud'hommes. On sait qu'Emmanuel Macron insiste, hein, il en parlait dans son programme, hein, d'ailleurs, électoral, sur le barème des prud'hommes. Là, on sait que c'est un point de clivage entre les syndicats et Emmanuel Macron.
Oui, bon, enfin, c'est un point de clivage qui a déjà été abordé, vu que il y a une partie, notamment, des dispositions qui avaient été retoquées dans la loi Macron. Donc, globalement, c'est pas une nouveauté. Tout ça, on a été clair pendant la campagne. Hein, Emmanuel Macron a été élu quand même quasiment 25%. Donc, c'était un quart des suffrages exprimés. Donc, sur ça, si aujourd'hui, avec un quart des suffrages exprimés, on peut pas réformer la France, quand est-ce qu'on va le faire?
C'est-à-dire qu'avec 75% des suffrages pas exprimés pour Monsieur Macron, ça paraît effectivement compliqué de trouver un terrain d'entente. Non, le vrai problème.
Est-ce que vous
là...
y croyez aussi? Non, mais c'est de négociation, ce que je veux dire. Non, c'est qu'on a souvent dit Manuel Valls, au moment de la loi El Khomri, n'avait pas suffisamment négocié, là, le prendre en amont, finalement.
Je n'y crois absolument pas. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, déjà, même si effectivement M. Macron a annoncé qu'il entendait réformer le Code du travail, d'une part, nous n'avons pas d'indication qui soit claire de la part du gouvernement, de la ministre du Travail. Donc, comme on dit, hein, quand c'est flou, il y a un loup, déjà pour commencer. Ensuite, là, les 48 réunions de concertation, on va pas se mentir. Nous, on sait très bien qu'elles sont là juste pour dire, voilà, on a fait de la concertation. Mais au final, quand vous avez un gouvernement qui a la majorité au Parlement, il fera exactement ce qu'il a décidé de faire. Il amendera peut-être à la marge, ce sera cosmétique. C'est tout. Voilà. C'est pas... J'ai envie de dire, c'est mon expérience qui me fait dire ça. Je veux bien qu'on soit dans l'illusion. Moi, je pense que là, on est vraiment dans la délusion. C'est-à-dire la croyance que même les faits qu'on va vous mettre noir sur blanc devant vous, eh ben, ça ne va pas vous faire changer votre croyance. Donc bon, bah, je pars. Ah,
c'est prendre le risque. C'est prendre le risque. Si c'est ça le but, c'est prendre le risque d'avoir tout le monde, d'avoir effectivement la France dans la rue dès le mois d'octobre.
Donc, je ne dis pas que c'est...
Pardon.
Allez-y, excusez-moi.
Je ne dis pas que c'est le but. Je ne dis pas que M. Macron est cynique ou que les gens qui l'entourent sont cyniques. Je pense simplement qu'ils font une erreur de diagnostic, qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir y aller allègrement et que, au final, ce qui va se passer, c'est pas que je le souhaite du tout, ça sera vraiment une partie de la France dans la rue, si jamais les mesures qui sont adoptées sont celles qui sont aujourd'hui présentées dans Libération, par exemple. Voilà. Et M. Mailly l'a dit très clairement. C'est halte au feu.
Oui. Pierre Persson,
si le dialogue social, c'est une erreur de diagnostic, alors je comprends pas.
Je n'ai pas dit que c'était le dialogue social qui était une erreur de diagnostic.
Vous êtes tellement
j'ai dit que c'est les solutions qui sont proposées pour soi-disant lutter contre le chômage sont une erreur totale de diagnostic.
C'est pour ça qu'il y aura discussion. C'est pour ça que le dispositif qui a été annoncé dans le programme sera revu à l'aune des discussions entre partenaires sociaux. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, en France, on ne peut pas être optimiste quant aux discussions entre partenaires sociaux et membres du gouvernement.
Soyez optimiste, il n'y a pas de problème.
Moi, je le souhaite. Je le souhaite parce que notre pays en a bien besoin.
Et vous pensez que jusqu'à présent,
C'est bien ce que je dis. Vous êtes dans la délusion, c'est-à-dire une croyance que même les faits ne peuvent pas dissoudre. Vous êtes dans la délusion. Vous êtes dans la macromania, en fait.
Ça me semble assez proche, quand même, parce que voilà, Pierre Persson, quand même, est candidat pour La République En Marche. J'espère pour lui qu'il est assez proche du président de la République.
Ça n'empêche pas la lucidité.
On va en parler justement dans un instant.
Politique n'empêche pas la lucidité.
Justement, Éric Metou, vous, ces histoires, le dialogue social, on l'a souvent reproché, voilà, Manuel Valls, en disant il évacue rapidement, surtout cette loi El Khomri qui arrivait en fin de quinquennat. Est-ce que de commencer justement un quinquennat par cette loi travail, c'était...
Après, c'est une version du dialogue social, parce que de toute façon, la réforme du Code du Travail façon Macron, c'est dialoguer socialement à un autre niveau que celui auquel on dialogue aujourd'hui. Et on peut être pour et contre, le débat, il est là. C'est-à-dire, est-ce qu'on prend des règles rigide, on s'appuie sur un code rigide qui s'applique à tout le monde de la même manière, ou est-ce qu'on descend au niveau des branches, au niveau des entreprises, après c'est ça qui va être discuté, pour avoir un dialogue social que lui considère comme, à ce moment-là, plus fluide et plus efficace. C'est ça, les termes du débat. Je pose pas de jugement de valeur sur l'une ou l'autre des options. Je dis que la discussion, il est là. Commencer par dialoguer avec les syndicats pour débattre de ça, précisément, moi, ça me paraît quand même indiscutable au départ, et plutôt une bonne opération de com, mais pas seulement.
Et Pierre Persson, est-ce qu'il y aurait un risque justement de la primauté, comme on dit, de l'accord d'entreprise sur le contrat de travail, comme on dit?
Non,
est-ce que c'est ça finalement?
Ça me paraît simple, parce que d'une part, Emmanuel Macron l'a dit, il n'inversera pas la hiérarchie des normes. Secondo, je ne pense pas qu'on puisse gérer un pressing d'une même façon qu'une entreprise de 500 salariés. Vous n'avez pas les mêmes conditions de travail, vous n'avez pas les mêmes enjeux, et donc il faut que, au sein même d'une branche et au sein même d'une entreprise, il y ait des négociations entre acteurs, à la fois les salariés, mais aussi les employeurs.
Bah voyons, il y a eu un référendum qui a été fait, notamment dans une entreprise de l'Est de la France. Au terme duquel on a demandé aux salariés s'ils acceptaient de travailler 39 heures, payer 37 heures. Ils ont accepté, mais ils ont expliqué très clairement que dans leur rapport de force au sein de l'entreprise entre l'employeur et les salariés, ce rapport de force était tellement défavorable qu'ils ont accepté parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur emploi, mais qu'au final, ils ont perdu.
Dans un instant, on va parler des législatives, l'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
Les États-Unis condamnent à leur tour les attentats de Téhéran. Le groupe État islamique a revendiqué ces deux attaques qui ont fait ce matin au moins 12 morts et des dizaines de blessés dans la capitale iranienne. Les gardiens de la révolution accusent l'Arabie Saoudite, mais aussi les États-Unis, d'être impliqués dans ces deux attentats. Trois Français sont morts dans l'attentat de Londres. Le dernier identifié, c'est Xavier Thomas, âgé de 45 ans. Le Français était porté disparu depuis samedi. Et puis la famille d'un autre Français de 34 ans s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles et prévient le Quai d'Orsay. Une explosion contrôlée aujourd'hui près de la future ambassade américaine de Londres. En cause, deux véhicules abandonnés. Ils avaient été signalés. La police n'a voulu prendre aucun risque 4 jours après cet attentat dans la capitale. Le prélèvement à la source sera bien reporté au 1er janvier 2019. Confirmation du Premier ministre Édouard Philippe. La mesure préparée sur le quinquennat de François Hollande et initialement prévue pour le 1er janvier prochain sera donc décalée pour permettre de nouvelles expérimentations. Stan Wawrinka, qualifié pour les demi-finales de Roland-Garros, le 3e joueur mondial a battu le Croate Marin Cilic en 3-7, 6-3, 6-3, 6-1. Il affrontera Andy Murray, le numéro 1 mondial, plus fort ce soir que le japonais Nishikori, battu en 4-7.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors, peut-être le savez-vous, en ce moment, on célèbre les 50 ans de l'album Sgt Pepper's. C'est l'occasion de revoir des images de la Beatles Mania. Rappelez-vous, toutes ces manias qu'on a eues, il y a eu la Kiki Mania, vous savez, la Kiki la peluche, il y a eu la Bruelle Mania, et puis il y a eu beaucoup, beaucoup d'autres manias. Et au niveau politique ou sociétal, beaucoup s'interrogent en ce moment sur la Macron Mania. Alors, il est fort, il est beau, il a serré la main à Trump sans se casser le bras, il a fait face à Poutine, à peine arrivé au pouvoir, le chômage baisse. En ce moment, en fait, le seul à faire plus fort que Macron, c'est un spinner, vous savez, ce jouet en forme de triangle qu'on fait tourner. Alors, excès de com' ou véritable passion des Français pour leur nouveau président. Pour l'instant, ça marche et nombreux sont ceux à s'en inquiéter à droite comme à gauche et notamment à l'aube des élections législatives comme Jean-Luc Mélenchon.
Les élections sont libres, chacun réagit comme il l'entend. Il est incontestable que beaucoup de gens se vouent d'une manière un peu aveuglée au chef de l'État, alors même qu'il est en train de procéder à un coup d'État social.
Voilà, même son de cloche pour Jean-Pierre Raffarin, inquiet du raz-de-marée qui pourrait se profiler pour La République En Marche, Jean-Pierre Raffarin.
On n'élit pas un empereur, on élit un président. Et que ce président, il a besoin pour gouverner d'un gouvernement qui s'appuie sur un parlement. Et que c'est au parlement qu'on vote les impôts, c'est au parlement qu'on vote les lois. Et donc, la composition du parlement est très importante.
Oui, mais
Français... dans notre calendrier électoral, la présidentielle dévore la législative.
Voilà, Jean-Pierre Raffarin, ce matin sur BFM TV. Alors, Éric Métou, c'est vous, la une dont on parle beaucoup cette semaine, c'est la une de l'Express. Forcément, vous vous êtes amusé avec Emmanuel Macron, voilà, Macromania façon hockey podium. Pourquoi finalement vous avez voulu partir là-dessus, sur ce sujet, voilà, c'est une ambiance pour vous que vous avez senti.
C'est vrai qu'il y a un super état de grâce. Alors, Hollande l'avait pas connu, donc on a un petit peu oublié, Sarkozy un petit peu plus, et puis les présidents précédents encore plus, et que là, c'est quelque chose, enfin, ça paraît presque nouveau, mais on est dans une 5e République qui a toujours fonctionné là-dessus, c'est-à-dire qu'on élit un président, et puis pendant quelques semaines, quelques mois, tout est rose, comme sur la couverture. Alors après, il surjoue ça, Macron. C'est-à-dire qu'il a quand même tendance, encore une fois, c'est de la com', mais c'est vrai que quand il va serrer la main de Poutine, il lui sert très fort. De Trump, il lui sert très fort. Face à Poutine, il n'hésite pas à élever le ton. Et puis, on est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il concentre tous les problèmes en disant, puisque c'est moi qui m'en occupe, vous m'avez élu, puis en plus, il est conforté par les sondages pour les prochaines législatives. Vous allez voir, ça va marcher, quoi.
Donc, est-ce qu'on peut employer finalement l'expression qui correspond à Nicolas Sarkozy sur l'hyper-président? Est-ce que c'est ça, en fait?
Non, c'est un peu différent. Parce que l'hyper-président, c'était une espèce d'hyper-activité, puis ça fonctionnait que sur le bonhomme. Là, ça touche, y compris, les candidats. C'est-à-dire que tout le monde, effectivement, s'avance avec cette espèce d'optimisme, je dis pas béat, mais en tout cas un peu rose, en disant, maintenant, on va reprendre les choses en main et ça va marcher. Il y a un côté un petit peu maniaque, un petit peu pop star.
Oui, c'est ça. Pierre Person, alors, est-ce que finalement aujourd'hui, vous défendez les couleurs d'une pop star ou d'un président de la République?
Il y a 3 semaines, quand il a été élu, on a dit Emmanuel Macron, il n'aura pas d'état de grâce. Je pense qu'on constate juste qu'il n'a pas d'état de grâce, c'est juste qu'il fait un bon début de quinquennat, tout simplement. Ensuite, vous l'aurez remarqué aussi, les personnes qui s'expriment en disant il ne faut pas qu'Emmanuel Macron il ait une majorité forte, ce sont toujours ceux qui sont opposés. Donc, je veux bien l'entendre. Aujourd'hui, moi, sur le terrain, ce que j'entends, c'est surtout des gens qui sont dit, j'ai pas voté Emmanuel Macron au premier tour, mais je souhaite lui donner sa chance. Parce que je veux pas qu'on reste dans le blocage pendant 5 ans, et que clairement, aujourd'hui, il représente aussi une chance pour le pays. Donc, on va jouer le jeu. On va lui donner une majorité.
Est-ce que plaire à tout le monde, c'est possible?
Non.
On a l'impression que c'est un peu ça Emmanuel Macron qui prend à droite, à gauche, qui veut plaire à tout le monde. On l'a vu pendant la campagne.
D'ailleurs, je crois qu'il a jamais été aussi peu présent. enfin, je veux dire, les prises d'opposition d'Emmanuel Macron, vous l'entendez encore beaucoup moins que lorsqu'il était même ministre de l'économie, alors qu'il s'exprimait déjà peu. Mmh. Donc non, je pense que c'est... D'ailleurs, il y a aussi beaucoup de commentaires journalistiques qui associent cette image. Donc ça me fait plaisir aussi que les journalistes considèrent que le traitement de la profession est amélioratif.
Justement, vous avez l'impression, André Guttard, que les médias sont objectifs aujourd'hui avec Emmanuel Macron, ou alors... Souvent, on a accusé les médias au départ, quand Nicolas Sarkozy a été élu, d'être aussi comme ça, au départ, de suivre peut-être Nicolas Sarkozy, de le suivre d'une manière gentille,
béate,
et après, voilà.
Oui, béate, on le voyait faire son footing, etc. Là, on voit Emmanuel Macron, j'ai vu la photo, je crois que c'était dans un hebdo, où on voyait Emmanuel Macron dans une petite voiturette électrique dans le parc de Versailles. Alors, c'est lui qui conduisait la voiturette avec Poutine à côté, qui avait l'air d'un petit garçon. C'est vrai que, et cette photo est passée, donc c'est vrai que les médias suivent ce mouvement, et c'est vrai que ça marche. Éric Métou a raison, c'est vrai que les gens, autour de nous, on voit que les gens sont assez emballés et qu'ils ont envie d'y croire. Mais c'est vrai aussi qu'on a vécu une année épouvantable en France, entre les attentats, avec beaucoup de violence, beaucoup de dureté, beaucoup de noirceur. Et oui, les gens ont envie de suivre cette image un peu candide qui ressemble à la une de l'Express. Et évidemment que ça ne durera pas. Hein, on l'a pas vu pour Sarkozy, ça n'a pas duré.
Bien sûr. Karine Mekari, vous, quand vous avez vu justement cette une de l'Express, est-ce qu'on est un peu là-dedans, justement, voilà, tout est rose, tout est formidable?
J'ai eu l'impression de voir quelqu'un qui avait l'air un peu illuminé, finalement, un peu comme dans certains meetings, quasi extatique, quasi mystique. Je pense qu'on est vraiment, Emmanuel Macron, il a le talent non pas d'une volonté ou d'une histoire, mais de nous emmener dans une illusion qui est une délusion, c'est-à-dire la croyance malgré des faits qui pourtant sont contraires. Ouais. Bon, voilà, je dis ça. Je suis pas entendue aujourd'hui. On verra plus tard. C'est comme ça. Je n'y peux pas grand-chose, mais. Voilà.
Alors, Pierre Persson, selon les dernières enquêtes d'opinion, donc La République En Marche approcherait près des 400 sièges à l'Assemblée nationale, c'est pour l'instant. Est-ce que finalement, aujourd'hui, le principal risque finalement de La République En Marche et de ce groupe immense qui pourrait se créer à l'Assemblée nationale, c'est qu'il y a tellement peu d'opposition autour que l'opposition elle viendrait de l'intérieur?
Non, déjà, je pense qu'il faut être prudent.
Il faut une opposition. À un moment, il y a toujours des oppositions. Hein, on le sait, la démocratie horreur du vide, donc il y a une opposition.
Oui, il faut être prudent. Déjà parce que le scrutin n'a pas été joué, et puis donc on verra donc dimanche prochain si les prévisions sont conformes au sondage. Et pour autant, après, en effet, il y aura un travail de constitution du groupe. Mais j'ai pas de doute là-dessus. On a fait signer à l'intégralité de nos candidats une charte sur laquelle ils s'engagent.
Même les gens du
MoDem? Tout à fait, tout à fait.
D'accord, très bien. Même les gens
du MoDem. Tout le monde a signé la charte. Et cette charte impose que le programme devra être appliqué. Et donc, sur les 10 grandes lignes directrices que propose Emmanuel Macron, il ne pourra pas souffrir de contestation.
D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y aura, pour vous, c'est comme ça que vous êtes à côté, les frondeurs n'auront pas lieu d'être, en fait, finalement. C'est ça. C'est l'expérience d'Emmanuel Macron, écoutez, quand il était.
Quand Emmanuel Macron crée En Marche, c'est aussi pour recomposer l'offre politique. C'est que l'offre politique ancienne, celle droite-gauche, ne correspond plus, en fait, à aujourd'hui une seule doctrine. Vous l'avez vu, la droite a ses frondeurs, la gauche a ses frondeurs. Aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaite, c'était rassembler le camp des progressistes. Mmh. Et les progressistes, aujourd'hui, je pense qu'ils souffriront d'une contestation, c'est les conservateurs. Et les conservateurs, ils sont en face, on les a entendus s'exprimer tout à l'heure.
Alors, Audrey Guttard.
Alors, c'est là où je trouve que le discours ressemble beaucoup à la une de l'Express. Ouais. C'est candide. C'est évidemment que la nature humaine prend le pas et que le jour où ce mouvement va devenir un parti, et que obligatoirement il y aura des dissensions, il y aura des courants, des chefs, etc. Parce que c'est la nature humaine, voilà. Et c'est comme ça.
Il y a
et
déjà
voilà.
des courants et des chefs. Voilà. Il y a déjà des courants différents.
Bien sûr. Et puis on sent bien, ça Pierre Persson, peut-être arrêtez-moi, mais on sent bien quand même entre François Bayrou et certaines personnalités du mouvement En Marche, c'est un petit peu tendu en ce moment.
Qui ont failli en venir aux mains.
C'est pas le ressenti que j'ai.
Ah très bien, d'accord. Non, mais je pense que les autres l'ont, c'est pour ça.
Non. C'est pas grave. Je sais pas si c'est pas l'habitude généralisée, mais je suis de nature optimiste, oui.
Bon, écoute, on verra bien en tout cas. Allez, l'info à 20h50, Stéphane Milhomme.
Le témoignage de James Comey au Congrès américain. Dans une déposition écrite, l'ancien patron du FBI confirme ce soir que Donald Trump lui a demandé d'abandonner l'enquête sur Flynn, son ancien conseiller mêlé à l'affaire de l'ingérence russe dans l'élection. Après les écrits, James Comey donnera demain et de vive voix des détails devant la commission sénatoriale. La France dispose désormais d'une task force anti-Daesh, une force d'intervention reliée directement au président de la République, le centre national contre-terrorisme sera chargé de piloter l'ensemble des services de renseignement dirigés par Pierre de Bousquet de Florian. C'est l'ancien numéro 1 de la DST. 10 hectares de végétation finalement détruits dans un incendie à Ramatuel près de Saint-Tropez. Un feu accidentel désormais fixé. Il a été provoqué par un particulier qui a mal contrôlé une opération de débroussaillage aggravée par le vent. Intervention de plus de 90 pompiers du Var avec également l'appui de Canadair. En Belgique, la Cour de cassation valide la condamnation de Dieudonné, le polémiste condamné à 2 mois de prison ferme et 9000 euros d'amende pour incitation à la haine. Il avait tenu des propos antisémites en 2012 en Belgique. La plus haute juridiction belge confirme donc cette condamnation en appel.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, il nous reste quelques minutes pour parler d'un problème de santé. Vous allez beaucoup en entendre parler dans les prochaines semaines et surtout dans les prochaines années. Quand on mélange santé et environnement, généralement, ça fait pas toujours bon ménage. Et là, vous l'avez appris sûrement sur notre antenne ce matin. Pour la première fois en France, une plainte a été déposée donc ce matin contre l'État qui n'aurait pas respecté les normes de qualité de l'air en France. C'est une plainte déposée par une femme de 57 ans qui explique que depuis son installation à Paris, il y a 30 ans, ses problèmes de santé sont allés crescendo, bronchite chronique, opération du sinus, pneumonie. Le combat donc de Clotilde Nonez est également soutenu par plusieurs associations qui estiment avoir une trentaine de dossiers comme le sien à l'heure actuelle. Caroline Mécari, est-ce que cette plainte finalement, elle a un sens? Est-ce qu'on peut mettre en cause finalement aujourd'hui l'État pour des problèmes de santé liés à l'environnement?
Écoutez, je pense vraiment qu'une telle plainte est moralement et éthiquement parfaitement fondée. Après, qu'elle aboutisse, je n'en sais rien parce que je n'ai pas les données du problème. Mais si je devais, moi, faire une action judiciaire pour mettre en cause la responsabilité de l'État, en réalité, j'initierais une action contre l'État en raison de la mise en service prochaine de l'EPR de Flamanville. Pourquoi ? Parce que l'EPR de Flamanville, tout le monde sait que c'est une cuve qui est complètement fêlée et qu'à n'importe quel moment, elle peut péter. Et donc causer des dégâts considérables. Et donc, l'autorité de la sûreté nucléaire qui va donner son aval pour mettre en route l'EPR de Flamanville, le fait en conscience. On a les données chiffrées sur cette situation. Et donc, il y a bel et bien une mise en danger de la vie d'autrui. Voilà, moi, ça, c'est l'action parce que je pense véritablement que là, c'est tapé vraiment un grand coup sur la table. Alors que l'action de cette femme, comme je le disais, qui est moralement et éthiquement parfaitement fondée, ça me paraît être un coup d'épée dans l'eau.
Et pourtant, Éric Métou, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'épisodes de pollution, notamment cet hiver, notamment, mais pas seulement à Paris. On a eu aussi, on s'est rendu compte que vraiment, aux quatre coins de la France aujourd'hui, notamment par exemple des villes comme Grenoble, asphyxient totalement. Est-ce que on voit que les pouvoirs publics semblent tout simplement en disant, on va faire circulation alternée, comme si c'était vraiment la solution. Est-ce que c'est pas par ces plaintes, finalement citoyennes, qu'on peut arriver à faire bouger les choses, comme on a pu le voir sur certains dossiers aux États-Unis, par exemple.
Moi, j'écoutais sur votre antenne tout à l'heure un reportage sur l'amiante.
Oui.
Qui est qui est juridiquement fondé. C'est pas simplement un problème moral ou politique. Et ça fait 30 ans.
C'est ça.
30 ans que ces pauvres gens meurent du cancer. Et que de procédure en procédure, ils touchent rien. Ils ne touchent pas un rond, ils perdent, etc., etc. Donc, oui, ça c'est défendable sur le plan moral, c'est défendable. Enfin, je comprends parfaitement qu'elle se lance dans une procédure comme celle-là. Est-ce que c'est utile en France? Moi, tout ce que je vois jusqu'à présent, c'est que ça sert à rien. Et c'est ça qu'il faudrait commencer à changer.
C'est-à-dire il faudrait davantage d'organisation.
Les class action. C'est un projet de loi qui court depuis, ça fait 10 ans qu'on en entend parler. C'est-à-dire que de mettre ensemble des gens qui ont les mêmes problèmes et puis d'additionner leur puissance pour aller en justice, ça serait utile.
Mais pour ça, il faut réformer.
Moi, je trouve ça totalement triste et pathétique parce que évidemment, cette plainte n'a aucune chance d'aboutir puisque de toute façon, les causes sont multifactorielles, etc. Mais c'est surtout l'échec total du lobbying politique des écologistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces associations sont obligées de se retourner vers du juridique pour faire parler du problème, du judiciaire qui n'aboutira pas. Et c'est leur échec depuis des années à convaincre les politiques de parvenir d'avancer sur ces problèmes, d'avancer sur le problème. Mais c'est effectivement, on peut parler de la
bien-être. Vous avec moi mais que les lobbies automobilistes, industriels...
Le résultat, si vous voulez, c'est que soit vous avez une ville qui se prend en main et qui, de façon très sécuritaire, agit
C'est ce que essaye de faire Paris, par exemple.
Par exemple, avec une opposition. Mais que, effectivement, à un niveau national, l'État s'en fiche complètement.
Malheureusement, la pollution ne s'arrête pas aux frontières de Paris.
Exactement. Et donc, effectivement, les politiques n'ont jamais, finalement, été vraiment concernées par ce problème.
Peut-être que M. Macron pourrait.
Alors, Pierre Person, justement, vous vous présentez à Paris. Aujourd'hui, c'est quand même un des sujets, bien sûr. Il y a le logement, il y a bien sûr les crèches, choses comme ça. Mais aujourd'hui, on l'a vu. Vraiment, c'était matérialisé avec ces circulations alternées, ces moments vraiment de doute. On s'est dit, mais finalement, aujourd'hui, on ne respire plus. Est-ce que ce genre de plainte, pour vous, est-ce que c'est des actions à mener? C'est comme ça? C'est par les citoyens que ça va passer avant les politiques?
Je sais pas. Le tribunal administratif décidera du lien de causalité qu'il y a à avoir et puis de préjudice. En tout cas, en tout cas de cause, en effet, le politique doit se saisir du dossier. La question de la pollution qui est intimement liée à la qualité de vie à Paris, c'est quelque chose qui préoccupe l'historien. Je l'entends tous les jours sur le terrain. On a eu des grands épisodes de pollution et donc sur ça, je fais confiance à l'action du gouvernement et notamment de Hulot pour faire le nécessaire.
Nicolas Hulot. Allez, les informés de France Info, ça doit se terminer. Merci beaucoup Pierre Ferson d'être passé ce soir. Merci Caroline Mécari, merci Audrey Goutard. La Une de l'Express, donc, bien sûr, on en a parlé.
Le OK Magazine.
Et voilà, exactement, OK Podium. Voilà, ça n'existe plus, mais bon, essayez de voir. Donc, c'est Emmanuel Macron sur la Macron Mania. Merci, Éric Métou.